Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Manifestement, une émission qui veut apporter sa pierre à l'édifice en proposant un regard critique sur l'actualité. Alors comme d'habitude, notre point de départ, c'est un article qui a été publié sur le site d'information Mutu manif-est.info et on va approfondir le sujet de l'article. Par ailleurs, plusieurs brèves vous seront présentés au cours de l'émission, un agenda, une actualité dans les prisons dans le Grand Est et des propositions de lecture, du moins des publications qui sont disponibles à l'infokiosque du Molodeuil. Alors moi, je suis H, je vais vous parler d'un sujet que je ne connaissais pas forcément avant, je ne suis pas un spécialiste, c'est mon point de vue, et voilà, j'essaye de développer des sujets qui m'intéressent. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Flo qui me file un petit coup de main. Voilà. On va parler dans cette émission de l'eau. Parce que en mars, il y a eu un appel sur le site internet manif-est.info, un appel à venir se rassembler pour la journée mondiale de l'eau, et où 200 personnes se sont retrouvées pour écouter des discours de différentes associations et groupes d'opposants à des sujets qui traitent de l'eau. Par exemple, bien entendu, les opposants à l'eau Vittel, enfin à Nestlé plus précisément, qui est propriétaire des eaux Vittel, Épar et Contrex, et dont on parlera un peu plus tard, mais aussi des opposants à un projet de chaudière que Norske Skog, un des plus grands papetiers de papier journal européen installé à Épinal, voulait construire. Donc, c'était un moment où on a appris pas mal de choses et du coup qui m'a pas mal intéressé parce que en fait je me suis bien rendu compte que l'eau avait une importance dans le coin. Donc en fait on va faire ça de manière, ça va être une émission un peu spéciale puisque c'est un peu une émission Wikipédia. C'est-à-dire que les recherches, elles sont plutôt parties de recherches sur Internet et pas tellement de discussions avec des gens, des opposants. Mais n'empêche que j'ai trouvé des choses intéressantes et que je veux bien vous les partager. Et aussi, une chose, c'est que je ne vais pas forcément parler des alternatives ou des choses qui pourraient être intéressantes, du moins que certains pensent intéressantes, par exemple comment fabriquer de l'électricité avec de l'eau et du coup d'être écolo, ou comment avoir une bonne gestion de l'eau de manière publique. En fait, je vais plutôt parler des revers de la médaille et comment en fait l'eau qui jaillit gratuitement un peu partout dans nos contrées, que ce soit dans les Vosges ou que ce soit dans la plaine d'Alsace et dans la plaine des Vosges, comment en fait le revers de la médaille, c'est qu'il y a une espèce de marchandisation de la flotte. Donc on va parler de quoi finalement ? On va parler de l'eau et du capitalisme. Donc je vais faire une espèce d'introduction sur la notion de la flotte, la notion de flotte. Il existe en fait trois types d'eau, si on peut dire. Une eau qu'on va appeler l'eau industrielle, c'est essentiellement de celle-ci dont on va parler aujourd'hui, et une eau qu'on va dire domestique, ainsi qu'une eau qu'on appelle agricole. En termes de pourcentage, parce que c'est assez intéressant et de capter les chiffres, l'eau agricole, c'est 70% de l'utilisation de l'eau. Donc là, on parle plutôt au niveau de l'Europe. L'eau industrielle, elle, c'est plutôt 20% de l'utilisation. Et donc nous, l'eau domestique qu'on utilise pour se laver ou pour manger, eh ben, c'est plutôt 10%. Donc voilà, c'est déjà assez chouette d'avoir ces chiffres-là pour un peu aller à l'encontre de Nicolas Hulot qui nous... Alors je ne vais pas dire qu'il faut laisser allumer la flotte quand on se brosse les dents, mais c'est vrai qu'il faut mettre en avance ce truc que en effet c'est plutôt l'industrie et l'agriculture qui pillent nos eaux et qui pillent l'eau et qui la polluent aussi. Donc l'eau industrielle, voilà, c'est en opposition à l'eau domestique. Enfin, l'eau industrielle est opposée à l'eau domestique dans le sens où donc l'eau domestique c'est pour je le redis, pour l'hygiène, pour l'alimentation, pour boire et cuisiner, mais aussi pour laver sa voiture et pour arroser son jardin et pour remplir sa piscine. Qu'est-ce que l'eau industrielle? C'est en fait tout le processus. Donc c'est pas uniquement fabriquer, mais c'est aussi en fait laver par exemple. Et on va le voir dans l'émission qu'il y a beaucoup enfin que le lavage et donc l'eau de lavage c'est très courant dans les grosses industries parce qu'il faut tanner, laver, enfin mettre de la teinture, enfin. Et dans l'eau industrielle est compris aussi ce qu'on appelle la production, est compris aussi l'énergie, donc la production d'électricité. Voilà. Donc, généralement, en tout cas, enfin bon, ça c'est des trucs de spécialistes. Généralement, le secteur de l'eau industrielle, on compte dedans le secteur énergétique. Donc, vous l'aurez compris, les consommateurs d'eau les plus importants, c'est donc l'agriculture et l'industrie, 70% et 20%. Donc, l'industrie pour laver, pour rincer, pour tremper, pour dissoudre, pour blanchir, pour colorer, pour extraire, pour séparer, pour synthétiser ou bien pour coller. En fait, voilà. Donc les premières industries ont historiquement cherché à se rapprocher des sources, puisque à la source de l'eau, on trouve une eau qui est pure. Et les papeteries ou l'industrie textile avec le coton, la soie, les teinturies, et ben en fait, ils avaient besoin d'une eau pure. Mais aussi d'ailleurs pour la chimie, la tannerie, enfin tout ce qui permet de polluer cette eau pure en fait. Du coup, en fait, donc c'est pour ça qu'on retrouve l'industrie du textile. On en parlera un petit peu après. Ou parlons-en maintenant en fait, l'industrie du textile dans les Vosges. En fait, on pourrait dire que les montagnes, c'est un espèce de château d'eau hein, pour le monde. Ça, au niveau mondial, quoi. Enfin, c'est comme ça que enfin, beaucoup d'eau non salée, en fait, viennent des montagnes, quoi. Et en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est simplement que les montagnes interceptent l'air qui circule autour du globe, la poussent vers le haut et la condensent en pluie et puis en neige. Et puis en fait, les montagnes vont stocker la flotte, ce qui fait qu'on a des sources un peu partout à travers les montagnes. Et donc toutes ces ruisseaux, on se rassemble et puis stockent cette eau dans des rivières et des canaux. Mais c'est vrai que l'industrie, en fait, a très tôt, pour les Vosges, entrepris des travaux pour pouvoir gérer cette eau, quoi. Entre autres, la canalisation des rivières et le percement de canaux. Mais aussi l'accaparement des terres, enfin du moins, du coup là, l'accaparement de l'eau. Entre autres, il y a un bouquin que je vous partagerai tout à l'heure sur l'industrie dans les Vosges qui parle de ça et entre autres des procès qui ont pu avoir lieu sur le droit de l'eau qui a été disputé aux cultivateurs, enfin aux paysans face en fait face aux industriels qui avaient besoin d'eau et plus d'eau que les autres et donc qui s'accaparaient ces eaux-là.
Juste à quelle période?
Là, c'est plutôt vers le 12e siècle, quoi. En fait, il y a déjà dès le premier, enfin le dès le 10e siècle, il y a déjà des prémices, mais c'est vrai que c'est plutôt à partir du 12e siècle que la force hydraulique par l'intermédiaire des moulins, donc en fait, devient très présente dans les Vosges parce qu'il y a donc cette abondance d'eau et de bois pour fabriquer ces moulins. À la base, plutôt pour du grain, mais très vite pour le papier. Donc après, là, il y a toute une histoire sur le papier, l'imprimerie. Enfin, c'était assez important dans le coin, en effet aussi, parce que ouais, enfin, il y a eu un démarrage, même si le papier existait déjà bien avant en Chine, dans le coin, ça a bien démarré, quoi. Et puis après, on arrive beaucoup plus tard sur les centrales hydroélectriques. Et en fait, le fait qu'on puisse fabriquer de l'énergie électrique avec l'eau, ça fait que les industriels ont pu mécaniser beaucoup plus, quoi. Et aussi, donc il y a eu des grands projets tels que, on en parlera, le lac Noir par exemple, qui est un lac dans les Vosges, qui en fait permet de fabriquer de l'électricité tout le temps, parce que il y a deux lacs, un lac qui l'eau descend vers le lac du bas et puis est remontée avec de l'électricité. Enfin, ça fabrique de l'électricité perpétuellement. Et voilà. Bon, ça, c'est un petit avant-goût historique, on va dire, de l'histoire de l'eau dans les Vosges. Je ne vais pas aller tellement plus loin. En tout cas, juste ce que j'espère. Je vais vous passer une musique. Et puis après cette musique, je vais vous donner quelques exemples. Et ces exemples, en fait, sont vraiment pas du tout exhaustifs. Mais par contre, peut-être qu'ils vous permettront de capter un peu des. Enfin, je pense qu'en fait, autour de nous, on a tous des exemples de problématiques autour de la flotte, c'est-à-dire soit de la privatisation de la flotte, soit de la pollution de la flotte à cause de l'industrie. Et donc là, je vais vous donner quelques exemples, mais qui sont en fait complètement déclinables près de chez vous, auditeurs et auditrices. Voilà, donc la première chanson qu'on va passer, on va passer toujours le même groupe. La première chanson s'appelle L'écume noire, et donc c'est un groupe qui s'appelle Six Six Six. Voilà,
Il vient d'où?
et ils viennent de. Bah, j'en sais rien en réalité. Mais en tout cas, ils viennent de la mer, de la profondeur de la mer.
Des pirates.
C'est des véritables pirates. Voilà, à tout à l'heure. Alors, pour commencer, l'histoire de l'eau dans les Vosges, je pense qu'il paraît logique de commencer par l'industrie du textile. Donc, l'industrie du textile, elle s'est installée dans les Vosges pour plusieurs raisons. Parce qu'il y avait un savoir-faire de la part des habitants des montagnes qui tissaient déjà avec leurs machines. Mais une des raisons principales, c'est bien entendu l'eau qui a permis en fait de créer de enfin, qui permettait de créer de l'énergie. Et donc énormément d'usines s'installent là où il y avait déjà des moulins pour le grain. Et pour profiter de cette force hydraulique, voilà. Donc la montagne, la région des Vosges devient soudainement une région cotonnière très importante, la plus importante, bon, j'en sais rien, la plus importante, mais en tout cas une région cotonnière très importante. Et voilà, et avec tout ce que ça implique. Donc l'eau finalement a.
Excuse-moi, les Vosges, c'est pas le lin.
Eh ben non, c'est le coton, figure-toi.
D'accord.
C'est, enfin, il y a eu du lin, mais le coton, en fait, c'était, enfin, c'était des industries, comment on dit, internationales, quoi. Donc,
Ouais.
c'est ça qui est étonnant, c'est que l'eau a fait des Vosges, en fait, une région cotonnière. C'est quand même assez étonnant, en effet. Et elle a fait aussi l'eau, finalement, enfin, en réalité, l'industrie textile a fait changer le monde, la face du coin, quoi. C'est-à-dire que la plupart des gens qui travaillaient dans des fermes se sont retrouvés à travailler à l'usine. Alors bon, contrairement à pas mal de monde, moi je pense qu'il faut être assez clair là-dessus. Les gens n'allaient pas travailler à l'usine parce que ils trouvaient que c'était nul. Hein. Et ils allaient travailler à l'usine parce que c'était moins difficile que de travailler à la ferme. Ça, on en a quand même beaucoup de témoignages. Après, bien entendu qu'il y a, il y a, il y a, il y a eu une exploitation qui était horrible, des enfants, de tout le monde en fait, et énormément de maladies, de morts. Mais ça a été un moment donné où en fait l'argent, grâce à l'industrie textile, enfin grâce à l'industrie textile, l'argent est rentré en jeu, c'est-à-dire qu'on travaillait dans une ferme de manière un peu autonome et soudainement on se retrouvait à travailler à l'usine, avoir de l'argent, pouvoir s'acheter une bicyclette. Ça a vraiment changé la face de ce coin-là, et aussi parce que donc c'est des grosses entreprises, des gros entrepreneurs qui s'installent avec beaucoup d'argent et avec dans un esprit. Donc attention, là je critique, hein, dans un esprit paternaliste, c'est-à-dire que ils construisaient les écoles, le théâtre, les maisons, en fait il y avait tout qui était du patron. Et l'industrie textile, c'est assez intéressant à analyser par rapport à ça, par rapport à la manière dont le capitalisme peut en fait se retrouver à s'installer dans des zones aussi lointaines, enfin, ouais, enfin, dans des fonds de vallée comme ça. Et donc voilà. Après, parallèlement à l'industrie textile, il y a eu aussi la pollution, dont on parlera jamais assez, en fait, de comment les industries à l'époque, elles ont pu détruire aussi la nature, quoi. Enfin, ça paraît logique, quoi. Et donc voilà, ça c'est la première chose par rapport à l'eau, c'est l'eau a amené l'industrie textile dans les Vosges. Une deuxième industrie qui est très importante et qui a, quand je dis très importante, c'est aussi en termes d'argent, hein, c'est des gens qui sont des vrais capitalistes et tout, c'est la papeterie. Donc, dès le XVIe siècle et bien avant même, en fait, dès le XVIe siècle, on a des industriels qui s'installent par rapport à la position géographique des Vosges au niveau de l'Europe pour pouvoir exporter facilement le papier. Et aussi, bien sûr, toujours par rapport à cette richesse hydrographique. Donc de l'eau, quoi. Et donc, parce que pour faire du papier, là, je ne connais pas les principes, enfin les principes, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut beaucoup, beaucoup d'eau. En fait, souvent, il faut mélanger la cellulose avec de l'eau. Bon, je ne connais pas assez précisément pour en parler là, mais une des problématiques que engendre la fabrication du papier, c'est surtout la pollution. Parce que derrière les usines, en fait, les eaux sont rejetées. Et pendant longtemps, on s'en fichait un peu. Et encore aujourd'hui, il y a énormément de. Enfin, très régulièrement. Des pollutions de cours d'eau suite à des rejets de papeterie. Encore là, il y a quelques années, dans les Vosges, vers Clairefontaine. Donc, justement, Clairefontaine, un nom que vous avez déjà dû entendre quelque part. Clairefontaine, qui en fait est installée en papeterie depuis très très longtemps. Mais il y a les historiques, on va dire, comme Clairefontaine, mais il y a aussi des moins historiques, comme une papeterie qu'on appelle Norske Skog, que vous ne connaissez peut-être pas, et qui pourtant, si vous lisez les journaux, comment on peut appeler ça, enfin, les journaux du coin, quoi, les Vosges Matin, Dernières Nouvelles d'Alsace et compagnie, il est probable que vous lisiez des journaux qui ont été en fait un prix, enfin qui ont été dont le papier est issu de l'usine d'Épinal, puisque c'est une énorme usine qui fabrique du papier à journal, à journaux. Et c'est une usine finlandaise, si je crois, et donc qui, pareil, enfin, les chiffres sont assez impressionnants. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que la manière dont ce genre d'industrie essaie de trouver des nouvelles façons d'évoluer. Par exemple, Norske Skog, donc numéro un du papier journal, aujourd'hui a voulu ou veut faire un changement, établir un changement dans son unité de production d'Épinal, en fait, en fabriquant du carton. Parce que le papier journal, ben, en fait, plus personne ne le lit, et que le carton, ben, dû aux envois d'Amazon, en fait, ben, en fait, on en a besoin de beaucoup plus. Donc, en fait, ce que je trouve intéressant à travers aussi toutes ces entreprises, c'est la manière dont on pourrait croire, en se baladant, enfin, en allant dans ces endroits des Vosges, que, en fait, on est dans le trou du cul du monde, mais qu'en fait, pas du tout, on est au centre du capitalisme. En tout cas, voilà, c'est dans ces endroits-là aussi, on a des entreprises telles que Moffret ou d'autres transporteurs, en fait, qui s'installent là-bas parce que c'est très stratégique. Il y a aussi une autre usine à carton, c'est Rossmann, donc typiquement donc une usine qui fabrique du carton, enfin qui recycle du carton, qui à la base est installée à Sainte-Croix-aux-Mines, en Alsace, et qui est du coup une usine qui fabrique les maisons, enfin très très paternaliste, et qui, ben, je pense, aujourd'hui explose avec le besoin de carton. Et. Enfin, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant là-dedans. Et donc, pour revenir à l'eau, ben voilà, c'est besoin massif d'eau pour recycler et pour fabriquer du papier, et aussi pollution des eaux. Donc, des centaines de poissons morts en 2017 suite à des rejets de la station d'épuration de Clairefontaine, par exemple, mais il y en a plein d'autres, quoi. Un autre point, enfin une autre utilisation de l'eau dans les Vosges, dans les montagnes des Vosges, qui arrivait assez tôt, c'est l'électricité et aussi les besoins de stockage d'eau. Donc il y a deux choses. Il y a donc le lac Noir dont on parlait en introduction. Donc c'est le premier lac qu'on appelle steppe, donc en fait qui pompe aussi de l'eau pour fabriquer de l'électricité. Mais je vous laisse aller sur Wikipédia pour en apprendre plus. Et aussi, il y a eu d'autres lacs, comme le lac de la Lande, qui à l'époque il y avait eu pas mal d'opposition. Donc là, ce que moi j'ai lu, c'est d'écologistes soucieux de préserver la tourbière, qui était une tourbière qui s'est fait inonder pour, en fait, entre autres, permettre aux canons à neige ben, de nous offrir des belles pistes.
La Bresse.
Donc ça, c'est à la Bresse, donc dans les Vosges, en effet. Voilà, et le fameux le fameux lac de pierre percée, dont je crois que c'est pas assez mis en avant, qu'en fait ce lac a clairement été construit pour refroidir en fait la centrale de Cattenom. Donc là, enfin, j'ai pas les chiffres, à combien de kilomètres ça se trouve, mais c'est très loin. Et en fait, en fait, les centrales nucléaires, précisément, sont une industrie qui demande énormément, énormément d'eau pour refroidir leur cœur, quoi. Bon, je peux vous donner un chiffre qui est un peu hallucinant. Donc, je suppose que ça, c'est dans ce qu'on appelle l'eau industrielle. 51% de l'utilisation de l'eau, ce serait donc pour refroidir les centrales nucléaires. Alors, bien sûr, l'eau des centrales, elle est rejetée. Enfin, c'est-à-dire que les centrales nucléaires, elles ne mangent pas l'eau. Enfin, après, tout l'eau est ressort derrière, souvent à des degrés plus hauts. Donc voilà, je reviens sur Pierre Percée. Donc Pierre Percée, donc lac qui aujourd'hui on a l'impression que c'est juste un lieu touristique parce qu'en fait ils ont réussi à avoir à nous coller cette image-là d'un lac très sympathique, sauf peut-être en ce moment où en fait il n'y a plus d'eau dans ce lac, donc ce qui pose sûrement problème pour Cattenom puisque donc en fait en cas de sécheresse dans la plaine, enfin vers Cattenom, ce lac permettait de rétablir, de rétablir l'eau, quoi, enfin que ça remonte pour pouvoir refroidir, quoi. Et donc je m'étais lancé dans les questions du nucléaire. C'est vrai que le nucléaire, c'est typiquement une industrie qui a besoin de l'eau, qui s'installe donc bien sûr autour de la mer, de l'océan. Alors qui ne s'est pas encore installé dans les vallées vosgiennes, mais qui par contre s'est installé au bord du Rhin, donc voilà, qui Fessenheim précisément, et donc qui aujourd'hui est arrêté, mais donc toutes les centrales en France sont au bord de l'eau, et donc il y a des rejets en fait entre autres d'eau chaude, enfin d'eau de degrés un peu plus haut, quoi, mais sûrement d'autres choses, quoi. Maintenant, j'aimerais venir vers un autre sujet, encore, enfin, toujours autour de l'eau, bien sûr, mais c'est le cas de la nappe phréatique, la nappe phréatique en Alsace, enfin, dans le bassin rhénan. Donc c'est une nappe qui est un peu, apparemment, en fait, qui s'étend sur un petit territoire, mais en fait qui est une nappe très grosse, on l'estime à 35 milliards de mètres cubes, juste sur la partie alsacienne. Donc c'est pas la plus grande réserve, mais par contre c'est la plus grosse en termes de capacité d'eau, quoi. Elle est énormément utilisée, autant par les gens comme vous et moi, mais aussi par les brasseries, enfin toute l'industrie en général. Je sais pas pourquoi je parle de brasserie, mais... Donc la nappe phréatique, aujourd'hui, c'est 75% des besoins d'eau potable en Alsace. C'est 50% des besoins de l'eau qu'on appelle industrielle et 90% des besoins en eau d'irrigation, donc pour l'agriculture. Ça donne en autre pourcentage, ça donne ça. Ça donne que 68% de l'eau est utilisé par l'industrie, 20% est utilisé pour l'alimentation, pour l'eau potable, et 12% pour l'irrigation, pour l'agriculture. Donc voilà, 68% pour l'industrie tout de même. Donc c'est une nappe donc qui nous est qui est comment on appelle essentiel pour beaucoup de gens et pour l'industrie et pour l'agriculture et qui pourtant en fait est menacée mais de toutes parts on va dire déjà en 1970 il y avait une grave pollution de la nappe avec des nitrates qu'apparemment on peut encore en retrouver aujourd'hui je sais plus ce qui s'y était passé exactement. Mais et donc aujourd'hui, c'est donc une émission dont on a déjà parlé, c'est Stocamine qui menace la nappe phréatique avec ses déchets dangereux enfouis et qui, un jour ou l'autre, vont se retrouver enfouis aussi par la nappe phréatique qui va remonter dans les galeries et qui risque en fait de polluer la nappe, quoi. Et après, à dose. Comment dire, toute l'année, c'est l'agriculture, bien sûr, avec tous les produits intrants. Mais c'est assez dingue comment, en fait, la nappe phréatique prend cher. La nappe phréatique nous ramène à une autre chose, c'est l'eau de source. Voilà. En fait, une des autres industries dans le Grand Est qui est intéressante à analyser, c'est l'eau minérale ou l'eau de source. On va commencer déjà par le versant alsacien. Donc, en Alsace, il y a plusieurs eaux de source qui existent, mais là, on va parler plus précisément de l'eau de Metzeral, enfin rapidement, hein, de l'eau de Metzeral, de Vadwiller et de Carola. Et en fait, pour parler de ça, il faut parler du secteur mondial, du marché international. En fait, l'eau, qui est finalement gratuite puisqu'elle sort du sol, en fait, très très facilement, peut devenir un objet de beaucoup d'argent. Et par exemple, il suffit de mettre de l'eau en bouteille pour qu'on puisse gagner des milliards. En tout cas, ça, c'est les chiffres d'affaires d'entreprises comme Nestlé. Et aujourd'hui, en fait, le secteur de la production d'eau en bouteille est assez concentré. Le premier, ben, c'est Coca-Cola. Donc, il n'y a pas trop Coca-Cola par chez nous. Par contre, très vite, il y en a d'autres qui arrivent, Nestlé entre autres. Donc là, par contre, Nestlé, c'est en fait Nestlé, donc c'est Nestlé qui fait plutôt plus ou moins 1 milliard de chiffre d'affaires avec l'eau, en mettant juste de l'eau en bouteille. Et Nestlé avait acheté à l'époque les eaux Carola et les eaux Metzeral, mais qui ont été rachetées par d'autres, puisque en fait il existe d'autres grands spas. Les Belges de Spa, qui eux ont racheté Carola et Vadwiller. Et pour Metzeral, donc Metzeral, c'est une autre vallée. Et là, c'est Alma, donc hein, c'est aussi un numéro 1. Alma, c'est ceux qui fabriquent Cristaline, donc qui ont énormément de sources un peu partout. Et Metzeral a aussi des contrats avec plein de magasins. Enfin, vous allez retrouver le Metzeral à Leclerc, Lidl, Colruyt, Monoprix, Cora, enfin, tutti quanti. Et en fait, ouais, c'est un marché juteux, apparemment. Enfin, je m'en suis rendu compte. Le cas Nestlé, c'est quand même l'entreprise la plus gravose, on va dire. En fait, et donc on va revenir là-dessus. Parce que Nestlé Water, plus précisément, vous en avez peut-être entendu parler parce que à Vittel, c'est Nestlé Water qui est propriétaire de l'eau Vittel, et aussi par ce biais-là, Contrexeville. Donc Nestlé, une marque, Nestlé Waters, qui est une marque qui a 72 en fait marques d'eau à travers le monde, qui vend finalement de l'eau gratuite. En fait, elle met tout simplement l'eau qu'elle tire de source. Enfin, elle les met en bouteille et c'est comme ça qu'elle se fait de l'argent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, Nestlé pompe l'eau à Vittel. Sauf qu'il y a un déficit, quoi. Enfin, c'est dans une nappe pour le coup. C'est pas des sources, c'est une nappe dans les Vosges, dans la plaine des Vosges. Et en fait, ils pompent plus d'eau qu'il n'en arrive, quoi. Et ça, je vous conseille d'aller voir aussi sur le site de L'eau qui mord 88, qui aura plus de détails que moi, parce que en fait, ils expliquent bien comment ça fonctionne et comment en fait aujourd'hui Nestlé propose carrément de ramener une pipeline d'eau potable pour les habitants afin que Nestlé puisse prendre l'eau des habitants et la vendre. Enfin, on en arrive à des trucs un peu fous, quoi. Et en fait, c'est pas un cas à part, puisque Nestlé a des oppositions, enfin, il y a des oppositions à Nestlé Water un peu partout dans le monde, au Canada, en Amérique du Sud, et en France. Enfin, et il n'y a pas que Nestlé qui a des oppositions sur ce genre de choses. Je pense que Alma et Spa se retrouvent aussi avec des opposants, parce qu'en fait, vraiment, là, on est dans un truc où on voit clairement une appropriation de quelque chose qui est censé être gratuit pour le vendre. Et, enfin, c'est quand même un peu fou, quoi. Dans la région de Vittel, moi, je voulais juste aussi rajouter un petit détail, c'est que donc Nestlé, bien sûr, c'est Nestlé utilise beaucoup d'eau. Mais donc en pourcentage là-bas c'est il y a il enfin sur les sur l'eau qui est utilisée en agricole et en industriel, il y a 50% qui est utilisée pour l'agricole et 25% qui est utilisée par Nestlé et 20% qui est utilisée par l'Ermitage. Et je voudrais juste soulever ce détail, c'est que il y a aussi l'industrie fromagère et l'Ermitage typiquement qui est aussi une grosse entreprise et qui en fait utilise énormément d'eau. Même si ils essayent de mettre en place des trucs d'économie d'eau, je sais pas quoi, c'est peut-être pas la même gros, c'est peut-être pas une marque aussi grosse que Nestlé, mais en tout cas, l'Ermitage, je pense qu'il faut faire aussi, leur donner une médaille de mauvais aussi, quoi. Mais ce qui est super avec l'eau quand même, c'est que ça permet le tourisme quand même, hein, parce que grâce à l'eau qu'on trouve à Vittel, dans toutes les villes que j'ai citées, où il y a de l'eau de source, en fait, il y a des casinos. Et ça, c'est quand même. Pourquoi, en fait, j'ai pas trop réussi à comprendre, mais en fait, en gros, en France, si pour avoir un casino, il faut que ce soit une ville de tourisme. Enfin, il faut qu'il y ait de l'eau. Et c'est une loi qui a été imposée un jour comme ça. Il y a plus pareil. Si vous voulez plus d'informations, il vous suffit d'aller sur Wikipédia. Mais en tout cas, voilà, c'est l'eau. Il y a le côté industriel. On exploite, on prend l'eau. Et puis il y a le côté où on va essayer de.
C'est pour ça qu'il y a un casino à Niederbronn.
Exactement, ouais. À
T'as jamais fait la
Niederbronn. À
relation,
Niederbronn-les-Bains, à Bains-les-Bains, à Plombières-les-Bains, à Vattvillers, à Carola, à Ribeauvillé. Enfin bon, voilà, c'est quand même, on peut se refaire au casino après avoir été viré de l'usine de Nestlé Water. Si, voilà. Eh bien,
vas-y.
on va faire une petite pause musicale, histoire de souffler un peu. C'est encore le groupe 666, et cette fois-ci, c'est la chanson Seis Mares del Dolor.
Thank you. Je remercie beaucoup Michel.
Exactement.
Oui. Il faut juste qu'est-ce qu'il
faut pas avoir.
Voilà, j'espère que ce groupe de surf vous a bien plu et je vais simplement dire encore deux mots sur l'eau et plus précisément sur la pollution et vous dire aussi, vous parler un peu de choses que je n'ai pas parlé et que j'aurais bien voulu. Et puis après, on passera aux différentes brèves. En fait, tout simplement, il y a quelque chose que je trouvais assez intéressant, c'est que le capitalisme et l'industrie en utilisant l'eau, ben en fait, elle la pollue énormément, comme on a pu le constater. L'agriculture, tout quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, donc il y a des contradictions à ça, c'est-à-dire que de certaines entreprises capitalistes se retrouvent à devoir, protéger l'eau, parce que c'est leur outil de production, ou pas leur outil de production, leur marchandise. Donc je pense bien entendu aux eaux minérales et aux autres sources qui en fait se retrouvent à devoir faire des espèces de contrats et à injecter énormément d'argent pour qu'il y ait des pratiques agricoles et forestières sans pesticides, sans sel de déneigement dans la voirie, proche des sources. Et en fait, ils financent parce qu'il ne faut pas que leur eau soit polluée, quoi. Du côté de Nestlé Waters à Vittel, ça s'appelle AgriVert, hein, c'est vraiment un financement en contrepartie aux agriculteurs. Et après, chaque source a ses histoires, et c'est la même chose apparemment de ce que j'ai pu comprendre pour les grosses brasseries telles que Kronenbourg, où en fait ils vont prendre de l'eau et du coup ils vont faire en sorte que l'agriculture qui se trouve autour du site de production, ça soit plutôt bio, on va dire. Et je trouve que c'est des contradictions qui sont assez assez intéressantes, quoi. Voilà. Ensuite, il y a des choses dont j'aurais bien voulu parler que j'ai pas eu le temps et j'ai pas eu assez de trouver assez de choses dessus. C'est la question de l'aménagement du territoire, l'aménagement de l'eau. Par exemple, entre autres, la manière dont ces derniers temps, apparemment à travers la France, il y a des aménagements pour que les poissons migrateurs puissent remonter les rivières, mais qu'en fait c'est fait d'une manière qui est tellement hors sol que il y a des oppositions à ça de la part des locaux, parce qu'en fait ils comprennent pas que des machines viennent détruire les cours d'eau pour laisser remonter les poissons. Et je trouvais qu'il y avait aussi quelque chose d'assez intéressant de la manière dont l'écologie peut en fait peut se retrouver à faire des choses qui sont censées être bien pour des animaux, mais qui en même temps, sans forcément faire attention aux gens qui y habitent, quoi. Et la dernière chose, c'est pour... c'est quelque chose que les gens qui habitent à la campagne et qui ont la chance d'avoir une source ressentent plus, c'est donc la sécheresse. Et comment en fait les sources dans les montagnes tarissent. Et je voulais juste ajouter ce truc-là par rapport au fait que dans les années 50, il y a eu énormément de forêts qui ont été plantées sur des prairies et des forêts d'épicéas, entre autres. Et qu'en fait, en réalité, ces forêts, elles ont un impact sur le fait que les sources tarissent, puisque les arbres là, qui ont été plantés pour l'industrie du bois, ils pompent énormément d'eau. Et je trouvais aussi qu'il y avait quelque chose d'intéressant à fouiller à cet endroit-là. Voilà pour cette émission un peu bancale qui part dans tous les sens, encore plus que les dernières, mais voilà, j'espère que c'était quand même intéressant. N'hésitez pas à envoyer des critiques ou des choses à l'adresse suivante, radio manifestement tout attaché @riseup.net. Et on va passer aux propositions, du moins partage de lecture. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer trois ouvrages. Le premier ouvrage, c'est un livre de l'ennemi. puisque c'est un livre d'un historien qui parle de l'épopée industrielle du massif des Vosges, donc c'est le titre de l'ouvrage, du Moyen-Âge à nos jours, aux éditions La Nuée Bleue, donc Damien Parmentier. Donc c'est un livre financé par, par Debuyère, Moffret, Garnier Thibault et Norske Skog, donc des super entreprises dynamiques du massif vosgien, mais qui est intéressant parce qu'il nous raconte l'arrivée de l'industrie dans les Vosges, et donc j'ai utilisé un petit peu pour cette émission. Donc il est disponible au kiosque de Strasbourg, il est possible de vous le faire envoyer, donc il est disponible en bibliothèque, donc en emprunt. Voilà, ça c'est un livre qui est disponible en emprunt, donc n'hésitez pas à envoyer un mail, je vous redonne l'adresse tout à l'heure. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est une revue sur les montagnes, qui s'appelle la revue Nunatak. Et en fait, la revue Nunatak, dans la revue Nunatak, il y a plusieurs articles qui parlent de l'eau, dont un dans le numéro... dans un numéro qui s'appelle « Le bruit du fleuve Congo n'empêche pas les poissons de dormir » et qui du coup parle des barrages, et en fait, donc je vais vous lire l'introduction. « Quelle que soit leur importance, les barrages posent des questions de fond. Et d'abord, à qui appartient un territoire? Et qui décide de l'usage de la nature de l'eau, des rivières, des lacs? À qui appartiennent les ressources créées par cet usage ?» Voilà, et puis par ailleurs, dans Nunatak, il y a eu régulièrement des articles sur des luttes qui ont lieu à travers le monde, entre autres sur des problématiques autour des barrages hydroélectriques. Voilà, donc je vais vous dire quand même le numéro, c'est donc le numéro 4. Hiver-printemps 2019, donc n'hésitez pas à envoyer un mail, je peux vous envoyer la revue par courrier. Et la dernière publication que j'aimerais partager avec vous, ça n'a rien à voir avec la thématique de l'eau. C'est un texte, c'est une réédition d'un texte, de plusieurs textes, qui s'appelle Misère de l'amour. Et autre texte du Fléau Social, donc le Fléau Social, qui était une revue dans les années 70, donc je vais vous lire le quatrième et la troisième de couverture. Alors la quatrième, c'est « Il faut être prêt, es-tu prêt, toi, à casser la gueule au vieux monde, à le briser entre tes mains pour que la force merveilleuse que tu portes en toi, ta vie, ton désir ne meure pas, ne se brise pas? Il nous manque d'aimer avec plus de conséquences et de poésie. Es-tu assez épris du plaisir d'aimer sans réserve, assez passionnément pour offrir à ton amour le lit somptueux de la révolution ?» Et en troisième de couverture, quelques propositions de la part du Fléau Social. Quelques propositions. 1. L'homosexualité, ça n'existe pas. Seulement dans la tête de ceux qui se croient hétéros ou que les prétendus hétéros ont réussi à persuader qu'ils étaient homos. Ouf. 2. L'hétérosexualité n'existe pas davantage. La sexualité ne peut être que globale et ne souffre pas de partition ou de division. Toute spécification est arbitraire et illusoire, et les comportements fixés ne le sont que face aux archétypes que propose notre culture. 3. Toute spécialisation est inventée et flattée par la classe dominante pour favoriser les uns au détriment des autres et vice-versa, afin de mieux s'imposer. D'ailleurs, les transgressions, quand elles n'entraînent pas une modification du statut social, sont parfaitement tolérées. 4. Homo et hétéro sont à titre égal les victimes du système. Ils sont simplement utilisés, exploités, opprimés à des niveaux différents. 5. Normal et naturel sont des mots à bannir. Rien de ce qui touche à l'homme n'est naturel en quittant le règne animal pour devenir social. Le bipède humain a abandonné tout naturel, il s'est dégagé de la nature. Rien de ce qui est spécifiquement humain n'est naturel. Voilà, peut-être que ça vous donne envie de recevoir cette publication chez vous, donc n'hésitez pas à envoyer un email, donc je répète, à radiomanifestement@riseup.net, et puis on s'arrangera. Voilà pour ce qui en est des propositions, enfin des partages de lecture pour cette émission. Donc on va passer au bref dans les prisons du Grand Est. Voilà, je voulais dire un mot sur les brèves, sur les prisons. Donc c'est un peu, je dois l'avouer, c'est des brèves qui sont plutôt superficielles. Je voudrais quand même vous rappeler encore une fois l'existence d'émissions de radio qui traitent de la question de manière bien plus sérieuse. Entre autres, L'Envolée, l'émission de radio L'Envolée, qui est aussi un journal. Et l'émission Carapatage, vous pouvez trouver ces émissions en tapant sur vos moteurs de recherche L'Envolée avec un E du coup et Carapatage, deux émissions de radio, deux émissions de radio contre les prisons qui sont un peu plus sérieuses que moi. Et je vais quand même vous faire part d'une mutinerie qui a eu lieu donc à Metz. Comme en mars 2020 d'ailleurs, et là c'était mi-mars où 40 détenus ont refusé de regagner leur cellule. Ils ont bloqué les serrures pour empêcher le personnel d'ouvrir les portes. Et voilà, on n'a pas, en tout cas rien n'est passé dans les médias pour savoir la raison pour laquelle ça s'était passé. En tout cas, voilà, il y a eu une intervention de Deseris et voilà. C'est parti pour l'agenda. Donc l'agenda, j'ai deux choses à vous dire. Un appel à rassemblement mardi 13 avril et mardi 18 mai à 8h15 devant la cité judiciaire de Nancy. Pour venir en soutien à plusieurs personnes qui ont été verbalisées pour avoir accompagné des militants convoqués à l'hôtel de police en mai dernier et qui ont contesté leur contravention, qui sont convoqués au tribunal de police. Et puis il y en a sûrement d'autres qui suivront. Ces personnes sont soutenues, l'article qui est en ligne sur manif-est.info. Ces personnes sont soutenues par un collectif d'avocats. Nous appelons à manifester notre soutien individuel et collectif, y compris par l'apport de soutien financier à ces camarades mobilisés pour la défense de nos intérêts collectifs. Donc appel à rassemblement de soutien le 13 avril à 8h15 et le mardi 18 mai à 8h15 devant la cité judiciaire de Nancy. Et la deuxième information, c'est donc tous les samedis à 11h30, en tout cas au mois d'avril, il y a des collectes qui ont lieu à Strasbourg, donc à Mimir, qui sont organisées par la Brigade de Solidarité Populaire de Strasbourg. Sont à déposer à la maison Mimir, 18 rue Prechter, à partir de 11h jusqu'à 17h, 11h30 jusqu'à 17h, des denrées alimentaires, des produits d'hygiène, des vêtements en tout genre et du matériel. Vous pouvez avoir plus d'infos sur Strasbourg Furieuse. Et puis je vais vous laisser. Au revoir, à bientôt, au mois prochain. Merci Flo, merci Radio Quetch, merci manif-s.info. Et manifestement, il y avait beaucoup de choses à dire. Voilà.
D'aller me détruire pour produire des nuisances qui détruisent à leur tour. Pour découvrir la vie plutôt que la survie, pour ne plus travailler. Rien n'est à espérer, tout est à renverser, et sur la table rase, nous
Ah, ah, ah.